Bonjour à tous, bienvenue sur Politessier. Aujourd'hui, 13h42, la politique est au cœur de cette émission. De nombreux sujets sont à l'ordre du jour. En effet, c'est la relation entre monde politique et médias qui va ici être mise en valeur. On commence avec le micro-trottoir de Tatiana et Nicolas, enregistré pour l'émission réalisée à Nancy le 26 janvier, lors de la formation de la création des médias.
Nicolas et Tatiana vont nous présenter leur micro-trottoir.
Alors oui, effectivement, Maxime, nous sommes allés dans la rue pour réaliser notre micro-trottoir. Nous avons interrogé les gens, ils nous ont répondu en toute honnêteté.
Ça a été une expérience très riche, on a rencontré beaucoup de personnes, même si ça a été un peu compliqué, puisque certaines personnes ne voulaient pas répondre.
Comment réagiriez-vous si Donald Trump était élu en France ?
C'est pas le même système, donc au niveau de la réaction, c'est une réaction de stupeur.
Bah, je serais pas très content.
Je pense que c'est dramatique, je ne sais pas, mais vraiment triste, franchement. J'aurais du mal à vivre avec une telle élection, ça me ferait vraiment mal. Je pense qu'on est le pays des droits de l'homme. Et actuellement, je me dis que ça peut arriver avec M. Fillon ou Mme Le Pen qui ont vraiment des programmes très radicaux.
Qu'est-ce qui vous séduit en premier chez un homme politique ?
Ses idées, parce qu'on vote un homme politique pour son programme, parce qu'on espère qu'il réalisera les choses qu'il a promises.
Ses idées politiques déjà, ouais. De quel parti fait partie, si c'est gauche ou droite.
Qu'est-ce qui me touche chez un homme ou une femme politique ? C'est d'abord sa sincérité. Et la sincérité, elle passe aussi par le regard. Donc c'est la façon dont il vous regarde quand il vous dit les choses. Et puis c'est bien évidemment ce qu'il dit et ce qu'il envisage. Mais au-delà de ce qu'il dit et de ce qu'il envisage, c'est la façon dont il le dit qui me touche le plus.
On enchaîne avec la chronique de Nicolas Elliott qui vont nous décrire la place qu'occupent les réseaux sociaux dans la prochaine élection française.
Alors Elliott, quelle est la place des réseaux sociaux en vue de cette élection ?
L'élection présidentielle approche. Nous vous proposons un focus sur l'utilisation des réseaux sociaux dans une stratégie de communication politique. Impossible de les éviter en ce moment. Les candidats à l'élection présidentielle sont partout. Télévision, affichage, internet, radio... Les médias sont sans cesse sollicités par les politiciens. C'est près d'un milliard d'internautes qui sont connectés sur Facebook, soit un sixième de la population mondiale. On compte parmi eux 25 millions d'internautes français. Les réseaux sociaux sont donc devenus un formidable levier de notoriété. Pourtant, en termes d'utilisation optimale des réseaux sociaux, nos politiques sont plutôt en retard, de 5 ans exactement par rapport aux États-Unis.
Mais pourquoi les candidats français sont-ils si présents sur les réseaux sociaux ?
D'abord parce que cela fait moderne. Il serait préjudiciable pour l'image d'un candidat de ne pas y être présent, surtout quand on sait ce que les médias sociaux représentent aujourd'hui. Ensuite, parce que les réseaux sociaux sont un excellent outil de prise de parole. Par exemple, les messages sont immédiats. L'adaptabilité et le temps de réaction sont courts. Comme nous l'avons vu pour Mélenchon, c'est un moyen de fédérer ses sympathisants et mettre en place des actions rapidement. Enfin, parce qu'ils permettent de toucher des gens autrement que par les médias classiques. Certaines cibles, notamment les jeunes, seront beaucoup plus réceptifs à des actions sur ce type de médias. En effet, les réseaux sociaux font partie intégrante de leur univers.
Mais alors, Mélenchon est-il un bon exemple pour l'utilisation de ces réseaux sociaux ?
Jean-Luc Mélenchon, la chaîne YouTube a atteint les 100 millions d'abonnés dans la première quinzaine de décembre 2016. Depuis, 20 000 abonnés de plus l'ont rejoint.
Ce politique bouscule les codes, et ce, un mois avant l'élection présidentielle française. Le candidat de la gauche radicale mise sur les réseaux sociaux où ses vidéos attirent de plus en plus de fans déçus de la politique.
Il fut également le premier à tenir un meeting simultanément à deux endroits différents. En effet, il a apparu en chair et en os à Lyon, et sous la forme d'un hologramme à Paris, une première mondiale, a trompé le plus technophile des prétendants à l'Élysée.
Prochaine chronique d'Alperen pour nous démontrer si oui ou non Donald Trump ne serait qu'un acteur.
Alors, les politiciens sont-ils des acteurs ? Avec l'ascension au pouvoir de personnalités telles que Donald Trump, nous pouvons nous demander si l'atout principal des politiciens ne serait pas de tenir de beaux discours. Trump est ici un bon exemple car nous sommes témoins, via son parcours, qu'il connaît le monde du show business. Cette personnalité a déjà été présentateur d'une émission et il sait donc comment attirer l'audimat. On pourrait se demander s'il n'a pas volontairement menti auprès de son électorat afin d'accéder au pouvoir par intérêt personnel. Cette caractéristique lui a été très utile étant donné qu'il est président des États-Unis à l'heure actuelle. Donc, les politiciens seraient-ils des Donald Trump cachés sous de beaux masques ?
Mais quelles sont ces images qu'ils donnent d'eux ? Lors de leurs discours, les hommes politiques montrent une facette qu'ils souhaitent mettre en valeur. Mais le fait est que l'on ne peut pas jouer un rôle indéfiniment. En effet, parfois, dans l'actualité des politiques, des scandales sont divulgués. Récemment, nous avons pu le voir dans l'affaire Fillon. Ce manque d'honnêteté vis-à-vis des citoyens provoque une hausse de l'abstentionnisme. Ainsi, le peuple ne leur fait plus confiance. Mais du coup, ils mentent avec leurs beaux discours ? Eh bien, les politiciens ne sont bien sûr pas tous des menteurs. Mais certains tentent de se faire élire grâce à cet atout. Bien sûr, ils essaient de se vendre avec leurs discours. Mais le fait est que, pour s'adapter à la concurrence, c'est-à-dire aux autres politiciens, ils ont besoin de mentir. À long terme, cela pourrait se transformer en course au mensonge. Celui qui mentira le plus avec la meilleure éloquence se fera élire.
Merci pour cette multitude d'informations. Maintenant, Axel va dans un instant nous expliquer si Trump est autant à l'aise en conférence de presse qu'en tweetant.
Oui, Trump est autant à l'aise en conférence de presse qu'en tweetant. Il a été mené à la Maison Blanche grâce à son usage frénétique de Twitter. Cela veut dire que ses fameux tweets l'ont fait devenir en quelque sorte président. Il est vrai que Trump, que ce soit en tweetant ou en conférence de presse, ne réfléchit pas à ce qu'il va dire. Il n'a pas peur de donner son opinion directement à des journalistes ou sur les réseaux sociaux, donc Twitter. Il peut être agressif avec tout le monde, que ce soit des journalistes ou ses proches, en se montrant sexiste, homophobe ou insultant. Voici un tweet emblématique montrant son agressivité envers
Arianna Huffington,
une éditorialiste et femme politique gréco-américaine. Elle
est déplaisante à l'intérieur comme à l'extérieur. Je comprends parfaitement que son ancien mari l'ait quitté pour un homme. Il a pris une bonne décision.
Encore, il critique les Chinois.
Le concept du réchauffement climatique a été inventé par les Chinois pour nuire à la compétitivité de l'industrie américaine.
Il n'est pas très modeste non plus.
Je serai le meilleur président du travail que Dieu ait jamais créé.
Trump dit que les soldats en Afghanistan ont de meilleures questions que les médias, donc il n'est pas très respectueux à l'égard des journalistes.
Nous avons vu ensemble le lien entre les politiciens et les nouveaux moyens de communication, mais que devient leur relation avec les anciens ? Camille s'est penchée sur le sujet. Alors, peux-tu nous dire quels sont les médias utilisés par les hommes politiques pour leur communication ?
De nombreux médias tiennent un rôle important dans les campagnes des hommes et des femmes politiques, qu'ils soient de gauche, de droite ou encore du centre. Ils ne sont simplement pas utilisés de la même façon. On compte parmi les médias traditionnels la radio, la presse écrite et la télévision. Il y a également des médias plus axés sur les réseaux sociaux.
D'accord, très bien. Je te propose de nous parler un petit peu du rôle des médias classiques. Commençons par la presse écrite.
Avec grand plaisir. Il est crié partout que la presse écrite est morte. Mais je pense que ce n'est pas le cas, loin de là. Elle a toujours eu sa place au sein des campagnes présidentielles. 269 584 journaux achetés par mois, c'est la moyenne de vente qu'affiche le journal Le Monde, d'après une étude de l'ACPM.
Qu'est-ce que l'ACPM ?
Il s'agit de l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, qui recense toutes sortes d'informations sur les journaux. C'est une jolie preuve de la véritable influence de cette presse. Pour donner un exemple plus concret, le 27 janvier, lors d'une interview donnée à La Voix du Nord, Marine Le Pen s'est exprimée. Elle y répond aux accusations qui ont été portées sur son manque de présence dans son département.
C'est en effet un très bon exemple. Et la radio, alors, a-t-elle un rôle important ?
Elle aussi, elle n'est pas oubliée. Elle permet de relater les infos de différents partis politiques, de les comparer, de les transmettre à leurs auditeurs, avec plus ou moins de subjectivité. Elle a encore une fois un rôle très politique. Récemment, Madonna a été bannie d'une radio texane pour avoir porté des propos anti-Trump. Comme quoi, la liberté d'expression n'est pas toujours tout à fait respectée. Mais pour te donner un meilleur exemple, Camille, je peux ajouter que les matinales des radios sont très écoutées et que la plupart ont des rubriques politiques.
C'est en effet une histoire assez délicate. Alors la télévision, elle aussi, elle sert de relais d'information pour les hommes politiques ?
Elle est un moyen rapide de transmettre à peu près tout et n'importe quoi. Des émissions sur la vie des hommes politiques pullulent et les débats sont source d'audience.
Voilà de nombreux médias utilisés par les politiciens. Mais comment s'en servent-ils ? Tu pourrais nous expliquer ?
Évidemment. Aujourd'hui, les hommes politiques sont prêts à tout, notamment à mettre en scène leur vie privée et leur situation familiale. Très souvent, ils utilisent les journaux dits « people ». Cela leur permet de créer une image favorable. Ils veulent donner l'impression qu'ils ressemblent aux électeurs. C'est donc un outil incontournable pour séduire le grand public. De nombreux magazines affichent ce phénomène appelé « pipolisation ».
Quel candidat pour 2017, par exemple, se sert de la presse pour se mettre en avant ? Peux-tu nous donner un exemple plus concret ?
Oui, par exemple, Emmanuel Macron est bien connu pour avoir pratiqué ce genre de stratégie politique. Il a réussi à faire la une de Paris Match avec sa femme Brigitte. C'est la troisième fois en 6 mois. Macron le défie en marche avec Brigitte, peut-on lire sur la couverture du fameux magazine. Le tout en lettres capitales, apposé sur une photo du couple, bras dessus, dessous, dans la capitale. 8 pages lui sont ensuite consacrées avec une multitude de photos de sa femme et lui.
Y a-t-il d'autres moyens de se faire connaître ?
Bien sûr. Depuis quelques années, les hommes politiques vont dans des émissions du type Vivement Dimanche où on ne peut pas plaire à tout le monde et encore ambition intime. Ainsi, ils peuvent rompre avec leur image traditionnelle d'hommes politiques. Ils veulent se rapprocher des téléspectateurs. C'est sans doute une façon de se faire apprécier du jeune public. Chaque candidat essaye donc à sa manière de séduire l'électorat.
Mais Camille, quel politicien se dévoile alors dans les émissions ?
On peut citer notamment la présence de François Fillon dans Ambition intime, une émission de Karine Le Marchand. 2,7 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous ce soir-là. L'animatrice dressait de lui des portraits émouvants, drôles, authentiques. En effet, assis sur un canapé, il s'est montré plus sympathique aux yeux de tous. Fillon admet même que cela a joué en sa faveur lors de la primaire.
En parlant du scandale Fillon, que peux-tu nous dire de sa gestion du Penelope Gate ?
La manière dont Fillon a géré le scandale est un véritable exemple de suicide politique. Le Canard enchaîné, le 25 janvier, a dévoilé l'affaire. Suite à ça, Fillon a essayé d'incarner le candidat honnête, droit, juste, bon. Une image loin des faits qui lui sont reprochés. Il utilisait des arguments assez pertinents afin de déminer le terrain. Cependant, quand il évoquait les missions confiées à ses enfants, il multipliait imprécisions, contradictions et esquivait les questions de fond, ce qui lui porte préjudice. De plus, au meeting du 29 janvier, il en a profité pour jouer la carte de la transparence. Il parle même d'un unique compte commun, mais la formulation de cette déclaration est ambiguë et imprécise.
Voilà des exemples bien concrets pour une affaire qui a déchaîné les médias. Pourtant, malgré ses multiples essais de reconquérir les électeurs, 61% des Français estiment que François Fillon doit se retirer de la présidentielle, d'après un sondage Odoxa.
Effectivement, c'est une preuve que les médias ne sont pas très efficaces dans la manipulation de la population. Il est évident que revenir dans la course électorale après tant d'éclats est très difficile, voire impossible. Déclarations de presse et discours élogieux ne suffisent pas à regagner la confiance nécessaire pour être élu.
Merci pour toutes ces infos et cette discussion très intéressante. À bientôt. En outre, quelles conclusions peut-on tirer de l'affaire Fillon ? Lara, peux-tu nous en proposer une ?
Après plusieurs semaines d'interrogations sur le maintien de François Fillon à la candidature à l'élection présidentielle, le suspense est retombé. Il sera candidat. Après le rassemblement au Trocadéro, dimanche 5 mars, de ses soutiens, François Fillon a réussi à surmonter les difficultés causées par le Penelope Gate. Plusieurs politiciens, comme Bruno Le Maire, avaient ouvert le bal en décidant de ne plus soutenir Fillon, tout comme le directeur adjoint Vincent Leroux et pour finir quelques jupéistes et sarkozystes qui ne voulaient plus le suivre. D'autres politiciens lui restent fidèles.
Merci beaucoup, mais faut-il être un bon orateur pour être candidat aux élections ?
Tout d'abord, quelles sont les qualités nécessaires ?
Pour être un bon orateur, il est nécessaire de se connaître et d'avoir confiance en soi. À l'image d'Hillary Clinton, il faut dégager de l'assurance, connaître ses défauts et ses qualités. Tout comme Obama, il faut savoir mêler histoire personnelle et discours. Il faut être persuasif. En 2014, il racontait que son parcours initial n'était pas différent de celui des jeunes noirs de quartiers pauvres des États-Unis. Il faut avoir une certaine stature et une bonne intonation, un langage approprié et captiver son public. Il ne faut pas oublier de sourire et de faire preuve d'humour sans dépasser les limites. Hillary Clinton l'a d'ailleurs prouvé en riant. Elle a été interrompue par une chaussure lancée par une spectatrice lors d'un discours.
Mais du coup, quelle est l'importance d'être un bon orateur pour le public ?
Un bon orateur a le mérite d'intéresser son public, qui sera plus attentif. Par exemple, Ronald Reagan, dans son discours « Tear down this wall », s'engageait pour la destruction du mur de Berlin. Il a enthousiasmé la foule, le public comprend plus aisément et écoute sans ennuyer. Il se sent plus à l'aise et plus intégré. Enfin, il croit aux promesses et à confiance.
D'ailleurs, est-ce qu'il y a des différences notables entre les discours d'Obama et ceux de Trump ?
Trump est irritable. Il n'hésite pas à se moquer et à utiliser un humour grinçant. Lors d'un meeting en 2015, il a imité publiquement un journaliste handicapé. Il fait des promesses, il est narcissique. Il critique et son langage est d'une simplicité enfantine et grossière. Son style fascine et effraie. Il n'est pas très bon puisqu'il a perdu face à Hillary Clinton lors des conférences. Mais, curieusement, il a gagné les élections. Trump est prétentieux et a dit que la Maison-Blanche était trop petite pour lui. Obama, au contraire, est émouvant et captive son public comme lors de son discours d'adieu. Il a fait l'éloge de sa femme et de ses filles. Ses morales proviennent de sa vie personnelle, il se rapproche du peuple et se considère égal à eux. Il estime et rappelle que tout le monde a la même chance. Obama est engagé pour son pays, il fait preuve d'humour et il dédramatise la situation. Il appelle à la tolérance et au respect. Il essaye de tenir ses promesses et s'exprime dans un bon français. Un bon langage. En revanche, il a tourné le dos à sa promesse faite à Prague lorsqu'il a annoncé vouloir débarrasser le monde des armes nucléaires. Ce n'est malheureusement pas parce qu'on veut qu'on peut.